octobre ont à voir avec la vie éternelle. Et c'est pour justement nous préparer à cette contemplation de la vie éternelle ou dans la fête de la Toussaint que nous allons pouvoir être attentifs à ces lectures. Mais peut-être un petit avant-propos de vous dire l'importance de la vie éternelle, l'importance du salut. Peut-être pour nous, ou pour certains, la vie éternelle paraît quelque chose de loin. Ouais, on sait qu'on va tous un jour quitter cette terre, ça c'est une certitude pour tous. Mais au fond, comment vient la vie éternelle éclairer notre vie vient... Ça peut être plus ou moins confus pour les uns et les autres. Mais ce que nous dit Jésus, c'est très important, ce qui... l'appel qu'il fait à la vie éternelle, c'est sur cette terre. C'est à partir de cette terre qu'il fait rentrer dans la salle de noces. Et je trouve ça intéressant de voir que cette invitation, cet appel, eh bien, le Seigneur nous le lance aujourd'hui. Nous sommes appelés à partager la vie de Dieu pour toujours. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Mais en quoi cette vie éternelle vient éclairer notre vie présente ? C'est très important parce que ça donne, j'allais dire, une lumière, une couleur, une saveur à nos actes, à notre vie terrestre différente. Ça donne quelque chose qui fait que nous avons cette certitude que nos actes retentissent dans l'éternité. Vous voyez ? Comme quand il appelle un certain nombre et qu'ils ne veulent pas venir, ça retentit dans l'éternité. Ça veut dire que il y a comme une sorte de densité, si vous voulez, du temps dans la vie chrétienne. Et ça, c'est vraiment, il n'y a que la vie chrétienne que les disciples de Jésus. Vous savez, autant dans les traditions qui sont plus philosophiques, qui viennent d'Asie, on voit c'est un temps circulaire avec la réincarnation, etc. Nous, c'est un temps qui est fléché. C'est un temps qui est fléché. C'est-à-dire qu'il y a un début et il y a une fin. Alors, cette fin du monde, pour nous, personnellement, c'est ce qu'on appelle le jugement particulier, bien, ce sera la fin de notre monde, au moment de notre mort, mais nous croyons aussi qu'il y aura une fin à ce monde visible. Nous ne croyons pas au retour du paradis terrestre. Par exemple, dans le judaïsme, ils appellent ça, voilà, le retour, ils croient au contraire qu'il y aura un nouveau paradis terrestre. Que le Messie, et c'est pour ça qu'il y a une mésentente avec la compréhension de Jésus, évidemment, comme Messie, mais depuis que Jésus est venu, ça ne va pas vraiment beaucoup mieux. Quoi. Donc, oui, mais ce n'est pas du tout ça comme pour nous le Messie. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant de dire, tiens, comment nous, cette vie éternelle, j'allais dire, on se l'approprie, on se l'approprie, puis on a, d'une certaine manière, on en prend conscience. Je trouve que, par exemple, beaucoup d'entre vous sont parents, voire grands-parents. Mais je crois que quand on met un enfant au monde, on le met au monde pour la vie éternelle. Vous voyez, on ne le met pas au monde, et ça c'est la grande différence des croyants par rapport à ceux qui ne le sont pas. Il y a des mauvaises et bonnes personnes dans les deux camps, si j'ose dire. Mais quand on est croyant, on pense qu'on ne met pas un enfant au monde pour la fosse, pour le cimetière, simplement, et que ça s'arrête là, non ? On le met au monde pour la vie éternelle. C'est-à-dire, on le met au monde pour contempler le visage de Dieu. Et donc, toute l'éducation, à la fois humaine, bien sûr, mais spirituelle, prépare l'enfant à éveiller l'enfant, à être des éveillés d'une certaine manière, éveiller l'enfant à cette vie éternelle qu'il attend, et en prendre soin. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment le Seigneur, et ce sera différentes lectures, voilà, qui a vraiment cette orientation-là de la fin du monde et du jugement. Et le jugement, alors, on peut le voir, parce que ça se termine plutôt mal. Avec cette question du vêtement de noces, il y a plusieurs interprétations possibles. Alors, certains ont dit, ça peut être le baptême, etc. Bon, mais ça peut être aussi dire, cette personne-là n'a pas pensé qu'elle était digne aussi d'être appelée par miséricorde, n'a pas cru à la miséricorde. Mais prenons bien conscience que si cette personne-là, dans la vie éternelle, c'est-à-dire que ici-bas, elle n'a pas cru à la miséricorde, de pouvoir être revêtir de la miséricorde de Dieu. Oui, c'est ça, c'est de pouvoir revêtir cette miséricorde, et du coup, elle arrive sans la miséricorde, et bien voilà. Donc, mais, j'allais dire, c'est la même personne qui, face au Seigneur, c'est la même âme humaine que nous portons dans notre corps, qui va contempler Dieu et qui va devoir se définir, se prononcer face à la miséricorde de Dieu. Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'il y a une densité dans notre temps, une puissance dans nos actions qui ont à voir avec un toujours. Et avec un toujours dans la gloire. Hein, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. C'est-à-dire que ce lien avec l'Église invisible, hein, avec nos frères défunts, etc., qui sont dans la gloire du Seigneur, ce lien-là, eh bien, ce lien d'amour, ces liens d'amour, ils ne se perdent pas. Ils ne se perdent pas. Peut-être l'un ou l'autre, vous avez perdu des êtres chers, etc. Eh bien, ces liens d'amour, nous les retrouverons dans la vie éternelle. Vous voyez, ça veut dire que... Parce qu'en fait, il n'y a que l'amour qui rentre dans le royaume. Et nous aurons peut-être besoin d'être purifiés intérieurement parce que, justement, notre âme, ici-bas, n'a pas eu cette attitude de vivre selon la charité du Christ. Et on sait très bien que chacun d'entre nous, ben, on a le besoin de demander pardon et justement d'être revêtu de cette miséricorde de Dieu. C'est beau de voir la vie comme ça, de voir qu'au fond, les liens, la vie éternelle, c'est avoir aussi avec les liens que nous entretenons, les relations que nous entretenons, la qualité des relations, être revêtu de la charité, être revêtu de l'amour de Dieu qui nous fait, qui nous rend digne. Mais si soi-même on ne s'estime pas digne pour X raisons, ou on n'en veut pas, eh bien on n'y entrera pas. Et Jésus le dit très clairement, vous n'y entrerez pas. Si vous devenez comme des enfants, vous n'y entrerez pas. Alors il y a comme une forme de, je trouve, une forme de, à travers ces lectures, qui sont un peu sévères, hein, je veux dire, vous allez voir, jusqu'à la Toussaint, ce sont des lectures assez puissantes qui nous secouent, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais justement, quand il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui nous, comment dire, qui nous dérange, eh bien c'est le signe qu'il faut creuser. C'est que ça, quand dans la parole de Dieu, il y a des choses qui nous dérangent, il faut aller plus loin. C'est qu'on a notre cœur, notre esprit n'est pas, et encore, voilà, en ténébré, ne comprend pas, n'a pas la lumière du Saint-Esprit pour entrer. Et donc, dans toutes ces lectures-là, en fait, je trouve que si on le voit aussi du côté de des relations, des liens que nous avons les uns avec les autres, parce qu'il s'agit bien de liens, hein, de liens avec les serviteurs, vous voyez, de liens avec les invités, on invite quelqu'un, c'est bien un lien, de liens avec toutes les personnes qui sont sur les croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Tous ces liens-là sont appelés à être glorifiés. Tous ces liens d'amour, tous ces liens de... Même, vous voyez, parce que le roi ne connaît pas vraiment ceux qui sont croisés des chemins, voilà, on va de par les chemins, mais il dit, mais justement, établissons un lien. C'est-à-dire que nous serons aussi dans la vie éternelle en lien avec des gens qu'on ne connaît pas ici-bas. Et ce sera extraordinaire. Vous voyez, c'est absolument extraordinaire de vivre comme ça, de dire, nous serons dans l'amour avec des gens que nous ne se connaissons pas, qui sont déjà dans la vie éternelle, qui sont déjà dans la gloire de Dieu, et qui, voilà, vécu dans d'autres temps, dans d'autres... nous serons en communion. D'où l'importance de la communion ici-bas. Et d'où aussi les conséquences graves de manque de communion. Oui, c'est ça qui est grave. De ne pas se laisser... touché par le Seigneur, par son appel, penser qu'il y a d'autres choses à faire, voilà, l'un va, voilà, laisse-moi, je venais, voilà, chacun va, et puis il y en a un qui fait, chacun a son commerce, a son champ, etc., donc on a des tas d'occupations, mais à un moment donné, toutes ces occupations, c'est bien qu'on les ait, n'est pas la question d'être inactif, mais est-ce que je les mets en perspective? Est-ce que je les vois comme des actions qui me propulsent dans l'éternité et voilà que les liens que j'entretiens, eh bien, ont à voir avec la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'elle est belle, notre foi? Et qu'est-ce qu'elle est belle? Qu'est-ce que c'est beau de vivre ainsi? Alors, ça demande comme une prise de conscience. Ça demande peut-être de reprendre conscience de cet appel qui nous est lancé, qui est urgent, parce que on ne connaît ni le jour ni l'heure. Et la mort peut nous cueillir là, maintenant. Voilà. Et alors, qu'est-ce que nous aurons à présenter? Au moins, ayons le désir de vivre nos liens dans cette perspective de la rencontre avec le Seigneur, comme chaque lien, comme autant d'appels. Au moins, ayons le désir. On n'y arrive pas toujours, mais voilà, parce que bon, si l'humanité, notre humanité, elle est blessée, voilà, on le sait très bien que ça, c'est malheureux. Et c'est justement, on attend cette gloire de Dieu, on attend que le Seigneur vienne nous sauver, vienne nous, précisément parce qu'on aspire à une plénitude dans l'amour. Alors, je trouve ça bien que dans cette perspective de préparation à la Toussaint, nous puissions peut-être justement remettre le cap vers un ailleurs, vous voyez, vers un horizon, vers cet ailleurs où Dieu nous attend. Et qui donne sens à toutes nos actions ? C'est pas qu'on se désintéresse ici et maintenant, non. Tout ça, cet ailleurs, cette éternité, ça donne sens à tout ce que l'on vit. Alors c'est cette grâce particulière qu'on va demander dans chaque Eucharistie. On va demander cette grâce, parce que dans chaque Eucharistie, c'est le royaume de Dieu, dans la fragilité du pain et du vin, qui vient à notre rencontre. Nous le croyons, c'est le mystère de la foi. La foi, c'est faute de mieux, la foi. La foi, c'est faute de mieux, c'est ce qu'on dit un régime d'indigence, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est réservé, c'est une certaine pauvreté, la foi. Faute de mieux, faute de quoi? Ben, faute du face-à-face. C'est ça la foi. Il y a une pauvreté dans la foi, parce que mais c'est dans la foi que l'on prépare aussi l'éternité. Alors c'est pour ça que chaque Eucharistie nous aide justement à nous préparer, à reprendre tout ce que je vous dis, vous le connaissez par cœur, mais juste à reprendre conscience. Juste à avoir cette vision, juste à avoir cet horizon, quelque chose qui nous tire vers le haut. Et puissions-nous un jour aller à la rencontre du Seigneur et le contempler dans sa gloire. Amen.